Il est rare qu'on parle d'un laïc. Vendredi dernier, on a parlé d'une laïque, la mère de Thérèse l'Enfant Jésus, Azélie Martin. Vous pouvez vous procurer sa vie, écrite par le docteur Cadeo, C-A-D-E-O-T. Il a écrit les deux vies, publiées aux éditions de l'Œil. Azélie Martin, d'une part, puis aujourd'hui, Louis Martin. Au cœur de la Normandie, il y a une petite ville qu'on connaît, de nom, Alençon. Je vous en ai parlé vendredi, en parlant d'Azélie Martin, la mère de Thérèse. C'est une ville où je suis allé, une petite ville, disons, charmante, calme, dont les trois églises s'élèvent au-dessus des rues, qui sont silencieuses et bordées d'hôtels et de vieilles maisons. C'est pas toujours très drôle, ces petites villes de la campagne française en dehors des périodes de tourisme. C'est très calme. Et c'est là que vient prendre sa retraite en 1830 le capitaine Martin, avec sa femme, ses deux enfants. Une fille et un garçon. Le garçon, c'est évidemment Louis, le futur père de celle qui va devenir un jour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église le 19 octobre 1997. Louis Martin est né à Bordeaux le 22 août 1823. Il avait donc même pas tout à fait 7 ans quand il est arrivé avec son père à Alençon. Et son père, après les batailles de l'Empire de Napoléon, prend part dans l'armée royale, parce qu'à la succession, n'est-ce pas, de l'Empire, il y a le roi Louis XVIII. On rétablit la royauté. Donc, il rentre dans l'armée royale, soit vers 1815, et il participe à une expédition en Espagne. Les Espagnols ne sont pas très contents de ces expéditions des Français en Espagne, croyez-moi. L'enfant qui est né le 22 août 1823, Louis Martin, est seulement ondoyé. Le baptême solennel aura lieu au retour de son père de cette guerre en Espagne. C'est alors que Monseigneur, l'archevêque de Bordeaux, va dire aux parents, dit-on, « Réjouissez-vous, cet enfant est prédestiné. » On dit ça souvent après coup. Espérons que c'était vrai au moment de sa naissance. De toute façon, s'il l'a bien dit, il ne savait mieux dire au fond. Cet homme va mettre au monde 9 enfants, donc 5 filles religieuses, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 5 filles vivantes, les autres vont décéder en bas âge, les 4 autres. Et c'est le désir de revoir le pays de ses pères qui attire en Normandie le capitaine Martin, le souci de l'éducation aussi de ses enfants, qui lui a fait préférer Alençon à son petit village natal. Il a une foi profonde, il a une loyauté absolue, une énergie de fer. C'est un caractère de capitaine. Il est le capitaine Martin. Il va employer sa longue retraite à ses devoirs de père de famille, puis de concert avec sa femme, aussi pieuse et courageuse que lui-même. Ils vont passer leur temps à des œuvres de charité, à s'occuper des malheureux, il y en a beaucoup à cette époque, comme il y en a encore aujourd'hui, évidemment. Mais il y avait eu des époques très troublées après la Révolution française, après l'Empire, la restauration de la royauté, tout ça. Et c'est dans cette atmosphère de foi vivante et agissante que le petit Louis Martin va grandir. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'a vécu à la suite de son père, on pourrait dire qu'au milieu de soldats, au rythme de la musique militaire. Alors il rêve aux gloires de l'époque de l'Empire, l'époque impériale de Napoléon Ier. Alors c'est un enfant de troupe, comme on dirait. Et il songe à devenir officier comme son père. Ça lui arrivera pas. Mais parce qu'il se pose la question, comment acquérir la gloire des armes puisque Napoléon est disparu? C'était un grand drame pour une grande partie des Français que cette mort de Napoléon. Mort comme un renégat. Et par ailleurs, son goût pour les choses de l'art à ce petit Louis, et pour le travail bien fait, Ça le guide vers le métier exercé à Rennes par un oncle de son père, c'est-à-dire l'horlogerie. Et le petit Louis Martin enrichit ses connaissances professionnelles d'un séjour à Rennes. Puis à Strasbourg, où il admire et étudie le mécanisme de la célèbre horloge, avez-vous déjà vu ça, qui est animée là dans la cathédrale? C'est à voir, hein? Des grandes horloges, et puis ça bouge, et tout ça, c'est, puis ça sonne, c'est merveilleux, c'est fascinant. Alors il lit les grands auteurs aussi, d'autrefois, puis d'aujourd'hui, c'est-à-dire de son époque. Mais aussi, il aime, dans la solitude méditative de son travail d'horloger, il aime songer à quelque chose, se consacrer entièrement à Dieu, C'est quelque chose. Alors, avec l'aide d'une dame d'Alençon, il acquiert une maison pour y installer son atelier et sa boutique, et il connaît alors l'existence calme et laborieuse d'un artisan, un horloger qui aime la minutie, la perfection de son travail. Il aime ça, cette solitude. C'est si propice à la méditation, hein. C'est un peu comme le travail de bibliothécaire que j'ai déjà exercé pendant 5 ans au grand séminaire. La solitude, la méditation. On y est bien quand on a 25 ans, 30 ans. Et sa piété le fait participer aux activités charitables d'une association locale. Il n'oublie pas ça. Il ne fait pas que s'isoler. Il s'engage aussi. Puis il passe de longs moments à l'église, ce qui ne l'empêche pas de se détendre par des jeux de société. Il va même à la pêche, hein? Oui, il va à la pêche. Et plus tard, il va amener ses filles. Et il donne généreusement les poissons, d'ailleurs, aux Clarisses d'Alençon, parce qu'il y a un monastère de Clarisses, là. Puis il finit par avoir 35 ans et ne songe vraiment pas au mariage. Qu'est-ce qui se va passer? Qu'est-ce qui peut se passer pour un homme qui ne songe même pas au mariage? Or, heureusement, sa mère lui fait trouver une femme exceptionnelle, qui est Azélie Guérin, dont je vous ai parlé vendredi, et qui l'épouse subito presto, en quelques mois, à minuit le soir, hein, vous vous souvenez. Et en ce 19e siècle, où l'égoïsme, qui est engendré souvent par la prospérité, conduit tant de ménages à refuser les enfants, on le voit aujourd'hui, hein, on préfère l'argent aux enfants, alors on les tue et on les jette. Mais là, la dénatalité menace gravement l'avenir de la France, comme elle menace le Québec et tout l'Occident d'ailleurs. Et il réduit aussi l'espoir de voir augmenter ou simplement de maintenir le nombre des prêtres, on pourrait dire, et des religieuses, et c'est ce qui nous arrive, il n'y a presque plus de vocation. Et chez les époux Martin, bien, les enfants sont accueillis comme un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu, un enfant. Et c'est lui, Dieu, qui va fournir les moyens de faire face aux besoins d'une grande famille. Mais d'abord, faut commencer par le travail. Alors, on s'attelle avec ardeur au travail. Louis Martin s'attelle à l'horlogerie. Il a joint un rayon de bijouterie, qui a beaucoup de succès. Mais cependant, il tient, selon la règle de l'Église, à respecter le jour du Seigneur, puis les gens de la campagne qui viennent à Alençon le dimanche pour acheter les cadeaux de mariage ou de baptême trouvent la porte close, même s'ils frappent à la porte. C'est en vain. Les amis de l'horloger s'inquiètent pour lui de la concurrence de ses rivaux, dont la boutique ne désemplit pas le dimanche. Et Louis Martin reste inflexible. Il renvoie sèchement ceux qui lui suggèrent d'ouvrir une porte dérobée. Vous avez une porte à l'arrière, là, qui accueillerait les clients tout en sauvant la face. En somme, en étant hypocrite. Vous savez qu'il y a un marchand juif de bijoux au coin de la rue Sainte-Catherine et de la rue Guy, qui, le jour du sabbat, le samedi, est toujours fermé. Et le vendredi soir aussi, il est fermé, c'est le sabbat. Je n'ai jamais vu ce marchand qui est francophone, qui est très gentil, mais qui est un juif très observant, n'ouvre jamais son magasin de bijoux en plein coin de la rue Guy et Sainte-Catherine, le vendredi soir et le samedi. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui va arriver à ce cher homme? Eh bien, le respect de l'abstinence puis des jeûnes est aussi absolu. Ça, il devient comme un moine par rapport à ça. Chez Louis Martin, cette observance est poussée jusqu'au scrupule. Hein. Exemple, le vendredi saint, il ne fait qu'un seul repas. à midi. Mange rien le soir. Quand il travaille au jardin en période de jeûne, il n'accepte de ses filles aucun rafraîchissement. Il ne boit rien. À moins qu'elle ne l'assure que l'Église l'autorise. Sa retraite annuelle à la grande trappe de Soligny, ça augmentait encore sa ferveur dans ses temps de pénitence. Il disait, quand on reçoit le bon Dieu si souvent. C'est ce qu'il disait à sa fille Marie, qui était un peu surprise. Quand on reçoit le bon Dieu si souvent, ne doit-on pas s'ingénier à se mortifier? Et c'est vrai que la mortification par amour et par respect, comme ça, c'est très grand et c'est très beau et c'est très chrétien. Ce n'est pas tellement la souffrance que la mortification de ce que l'on est afin de faire plus de place à l'amour de celui que l'on reçoit, qui est l'amour même, qui est Jésus, auquel nous tenons à nous identifier pour devenir des saints. Pour Louis Martin, le respect humain n'existe pas. Il accomplit tous les gestes publics du chrétien avec un naturel, sans ostentation. Il salue les prêtres, les religieuses. Il se découvre lorsque passe un enterrement. Il s'agenouille même en pleine rue devant un prêtre qui porte le corps du Christ à un mourant. Les prêtres portaient dans ce temps-là un voile huméral, c'est-à-dire un voile blanc sur les épaules, et souvent accompagné d'un enfant de cœur qui sonnait une clochette. Ça, on n'imagine plus ça aujourd'hui. Puis il applique la devise de Frédéric Ozanam, le bienheureux Frédéric Ozanam, aujourd'hui qui vient d'être béatifié, ne pas se faire voir, mais se laisser voir. Il s'interdit cependant de juger son prochain, et Louis Martin est aussi un exemple de douceur et de bienveillance. Et comme son patron Saint-Louis, le roi de France, c'est un apaiseur. Il lui arrive d'ailleurs de séparer des individus qui se battent au couteau, ce qui est plutôt dangereux, vous en conviendrez. C'est pas la meilleure chose à faire. Très souvent, il se présente des occasions de faire du bien. Alors Louis Martin n'en laisse passer aucune. Il voit dans une gare un pauvre épileptique sans le sou, puis mourant de faim. Alors là, il tire son chapeau. Il fait la quête pour le malheureux, imaginez. C'est original, c'est une chose à faire peut-être, j'avais jamais pensé à ça, moi. Prendre le chapeau du malheureux qui est là assis, qui est épileptique, qui tremble, et puis là, passer la quête pour lui, puis lui remettre son chapeau rempli d'argent. Dans une rue très fréquentée, un ouvrier gît à terre, justement plus plein que de nourriture, que du vin de sa bouteille. Mais tous les passants le voient, personne ne le s'arrête. Alors c'est notre bon samaritain Louis Martin qui le relève, le soutient et le reconduit à son logis, quitte à lui frotter un peu la tête le lendemain. En somme, Louis Martin, c'est un audacieux qui aime les pauvres. Chez Louis Martin, dans sa famille, surgissent de nombreux décès. Les enfants meurent, les grands-parents meurent. C'est beaucoup de douleur. Alors donc, après tant de décès dans sa famille, il y a un dernier deuil, c'est Mélanie Thérèse, la petite, qui survient en août 1870. Une petite fille. Au moment de la guerre franco-allemande, que l'on a su en France ni prévoir ni préparer. Ça tourne au désastre. Puis en janvier 1871, l'ennemi est à Alençon même. Lui, fils d'officier, Louis Martin, ne l'oubliez pas, regrette son âge. Il a 47 ans maintenant. Et son âge l'écarte des combats. Alors, comme il connaît parfaitement le pays, vous voyez, l'homme courageux, c'est pas un catholique un peu niaiseux de fond de chapelle, là. Non, non, il accompagne pour les guider les patrouilles de francs-tireurs. C'est dangereux. Il risque, s'il est pris, d'être fusillé. Quel courage, hein? Quel catholique solide. Il s'est fait respecter sa maison occupée par les soldats prussiens, les soldats allemands. Jusqu'à flanquer dehors un soldat partisan du droit de conquête, comme s'il y avait un droit de conquête. Hein? On en sait quelque chose ici, le droit de conquête. Hein? Alors, ce drame de la France vaincue et humiliée, ça meurtrit ses sentiments patriotiques à Louis Martin, au point de lui faire perdre le sommeil. Comment le pays va-t-il se relever d'un désastre pareil ? Et de son côté, sa femme, Zélie, est horrifiée par les désordres parisiens de la Commune, qui s'achève, vous vous souvenez peut-être, par le massacre des prêtres, puis l'assassinat de l'archevêque de Paris, vous vous souvenez, hein, sur les barricades. Un jour, je vous raconterai la vie de cet évêque. Et cette haine sociale et religieuse des adeptes même à Alençon, hein? Eh oui. Alors l'espoir renaît quand même. Un renouveau de piété lance vers Chartres un immense pèlerinage que suit Louis Martin. Il s'inscrit au cercle catholique qui étudie l'action sociale à la lumière du christianisme. C'est donc un engagé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des bonheurs, des tristesses, des joies, des souffrances, jusqu'à sa vie même, qui est une grande douleur finalement. Sa femme a tout donné. Et maintenant, elle s'abandonne entre les mains de Dieu, sa femme, Zélie Martin. Parce que l'inéluctable fin approche. Louis Martin va chercher à Notre-Dame le prêtre qui va administrer l'extrême onction à sa femme qui agonise. Elle est entourée de sa famille, qui est en larmes, puis elle s'éteint doucement, n'est-ce pas, le surlendemain, le 28 août 1877. La domestique, Louise, dit « Pauvre petite, vous n'avez plus de mère. » Elle dit ça au retour du cimetière. Alors Thérèse, la petite, encore enfant, se précipite vers sa sœur Pauline, qui est sa sœur préférée. « Eh bien, c'est toi qui seras ma maman. » Et quelques heures avant sa mort, Madame Martin, d'un long regard suppliant, fixé sur sa belle-sœur Madame Guérin, elle lui avait confié ses filles, mais déjà, Madame Guérin était prête à être très généreuse à l'égard de ses nièces, parce qu'il y avait une grande intimité des deux familles, et ça aide beaucoup. Il restait à convaincre Monsieur Martin de quitter Alençon, où il laisserait tant d'amis, puis la maison où il le retenait en souvenir, pour aller s'installer à Lisieux auprès des Guérin. Mais enfin, il se rend à la vie de ses deux filles aînées. Et aussitôt, M. Guérin se met à la recherche pour son beau-frère, M. Martin, d'un logement convenable avec un jardin, ce que Mme Martin, qui est décédée, trouvait indispensable à la santé des enfants. Il trouve enfin, à égale distance de sa pharmacie et de l'église, M. Guérin, il trouve une jolie maison, entourée de vertures, dans le quartier des Bissonnets. Bissonnets, nom que les filles vont changer en Buissonnets, c'est plus joli. Puis ils vont appeler Belvédère, n'est-ce pas, la pièce centrale du second étage, où l'on découvre un immense panorama, vous vous souvenez, le Belvédère, hein, où lui, le M. Martin, va finir ses jours, ou du moins une grande partie de ses jours. Louis Martin, donc, a définitivement liquidé l'affaire de Point d'Alençon que faisait sa femme à domicile, cette dentelle, car à présent, il s'agit pour lui de se consacrer à l'éducation des enfants qui sont privés de leur mère. Et cette tendresse profonde qu'il a pour ses filles ne l'empêche pas d'être ferme. Il exige en tout de l'ordre, du soin, de l'économie, et il ne tolère ni laisser aller ni gaspillage. Comme toujours, les servantes sont de la maison, et M. Martin les traite avec bonté. Et puis, indifférent avec les domestiques, sauf des cas particulièrement graves, là, ce sont les enfants qui doivent céder. Et il ne saurait être question, évidemment, de manquer d'égard aux personnes qui rendent service à la maison, qui sont les servantes. Plus tard, ces servantes dévouées seront pleines d'éloges et de reconnaissance pour cette famille Martin. Pour leurs études, Léonie, Céline et Thérèse vont chez les bénédictines de Lisieux à l'école de l'abbaye Notre-Dame-du-Pré, dont Jeanne et Marie Guérin, les cousines, suivent déjà les cours. Après les devoirs et le souper, la veillée du soir au Buissonnet, c'est un moment de détente. Après une partie de dames avec Marie, M. Martin lit quelques pages de l'année liturgique de Don Guéranger, l'abbé de Solèmes, fondateur de la Congrégation de France, à laquelle appartient Saint-Benoît-du-Lac. Puis chacune des filles prend un livre qui a été choisi, évidemment, à la bibliothèque paroissiale. Et c'est le moment où Thérèse vient se blottir sur les genoux de son père, qui lui chante des mélodies. ou bien il l'amuse avec des petits jouets qu'il a lui-même fabriqués. Enfin, c'est une soirée familiale typique de l'époque qui s'achève par la prière du soir devant la Vierge. Pas de radio, pas de télévision, pas grand-chose pour se distraire comme on fait aujourd'hui, qui disperse nos familles. On voit fort peu de monde chez les Martins. Monsieur Martin tient à rester dans le cercle familial auquel les Guérin, heureusement, apportent leur affection. Il n'a pas renoncé au plaisir de la pêche, mais il aime encore mieux ça quand il peut être accompagné de ses filles. Ses promenades dans la campagne environnante, des excursions en break, c'est, vous savez, c'est une voiture à l'anglaise où les deux sièges se font face. Eh bien, ça agrémente les pique-niques, hein. Et puis, pendant quelques années, ils font un séjour à Trouville, où je suis déjà allé, j'ai rapporté des souvenirs de là, où Thérèse est impressionnée. Elle découvre la mer. Trouville, c'est près de Deauville. Deauville est plus connu. Et puis, c'est tout cru de ces plaisirs simples que vont rester dans le souvenir des filles, toutes sortes d'heures d'autant plus heureuses qu'on les aura connues au sein d'une famille unie. Une famille unie. J'insiste parce que c'est tellement rare aujourd'hui. Mais à Lisieux, comme à Alençon, c'est la vie spirituelle qui assure cette unité de la famille dont le père est l'exemple et le guide. C'est le père qui fait l'unité par sa prière. Tous les matins, il accompagne ses filles à la messe de 6 heures. C'est celle qu'il préfère. Pourquoi? C'est la seule à laquelle peuvent assister les domestiques et les ouvriers. Et j'y suis en compagnie des pauvres. Les communions fréquentes vont devenir quotidiennes. L'action de grâce se prolonge bien au-delà de la messe. Sur le chemin du retour, il dit un jour à ses filles étonnées de son silence, « Silence, silence, je continue à m'entretenir avec notre Seigneur. » Et c'est ça une action de grâce après la messe, ça peut être fait en marchant. De toute façon, la messe est déjà une immense action de grâce. Louis Martin est membre de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Il visite les pauvres, les malheureux. Il leur apporte son soutien matériel et moral, et sa générosité va croître au fil des années. Et il a un motto, si on veut, une devise, « Donne, donne, et fais des heureux. » Mais ne se contente pas d'aller chez les pauvres. Certains ont leur jour, où ils sont reçus à la maison et réconfortés, et c'est Thérèse, la future Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui les accueille. Et tout en calmant son chien Tom, qui est indigné de cette invasion de gens plus ou moins dépenaillés. Et voici que, brusquement, un jour de mars 1883, Thérèse a 11 ans, une maladie mystérieuse, inconnue des médecins, donc sans remède, s'abat sur Thérèse. Elle a des convulsions, des délires. Et plus stupéfiant encore, des cris d'effroi à la vue de son père, on ne sait pas pourquoi. Et soudain, le jour de la Pentecôte, Thérèse voit la statue de la Vierge, celle-là même qui depuis toujours préside aux prières de la famille. Et la statue s'anime et lui sourit. Et la crise cesse aussitôt. Monsieur Martin craint. Il craint pour la santé de Thérèse. Alors il la retire de l'abbaye, puis lui fait donner des leçons particulières chez une institutrice. Il est heureux de conduire sa petite reine, comme il l'appelle, plusieurs fois par semaine. Les promenades reprennent. Ça réchauffe un peu le cœur de son enfant. Puis elle a des petites satisfactions, je vous laisse là-dessus, c'est assez drôle. Un petit peu humaine, on voit, c'est une petite fille normale, parce que elle entend sur son passage des compliments sur sa jolie petite personne. Puis elle peut pas s'empêcher, la petite Thérèse, d'en être agréablement touchée. Ah, la vanité des jeunes filles, hein? Même Thérèse Martin. Louis Martin, père de Thérèse, a eu bien des épreuves, mais ce sont de belles épreuves quand on y pense. C'est un nouveau coup qui l'atteint. Après Pauline, qui est entrée au monastère des Carmélites de Lisieux, eh bien c'est Marie, qui elle aussi songe à entrer au Carmel de Lisieux. Alors Thérèse ne quitte plus sa sœur Marie. Elle n'essaie même pas de cacher son chagrin. Cette séparation, au moment où elle a ce martyr des scrupules, est plus torturant que jamais. Alors Céline prends maintenant la direction de la maison. Mes parents souhaitaient que toutes nous soyons consacrées à Dieu, dira Marie. Cependant, M. et Mme Martin avaient trop de respect pour la liberté de leurs enfants pour exercer une pression quelconque. Se soumettre à la volonté de Dieu et laisser agir sa grâce, tout en montrant l'exemple de la vie chrétienne, puis y former leurs enfants, c'est comme ça qu'ils préparaient le terrain où pourraient germer ces cinq vocations religieuses. Et Thérèse revoit d'ailleurs son père lorsqu'elle est encore petite fille. Elle a pénétré pour la première fois dans la chapelle du Carmel et lui disant à l'oreille que derrière cette grille, il y avait de saintes religieuses qui priaient Dieu. Je me souviens d'avoir amené mon petit-fils Pascal, qui n'avait à l'époque que 7 ou 8 ans, au Carmel de Montréal, et puis il courait jusqu'en avant, puis là il s'est penché pour voir le plus loin possible, il s'approchait de l'hôtel pour voir les sœurs derrière la grille, parce qu'il pouvait pas les voir autrement. Puis il était très impressionné, je crois qu'il est resté impressionné pour le restant de ses jours. Pourtant, Louis-Élie Martin souffre de ces séparations et de savoir qu'ils ne verront pas naître de petits-enfants. Pas de petits-enfants. Toutes leurs filles religieuses. Et les vocations religieuses de leurs filles les réjouissent quand même jusqu'au fond de leur être. Et lorsque Pauline, en 1882, s'apprête à quitter la maison pour le cloître, son père lui dit quand même, « ma Pauline, je t'ai permis pour ton bonheur d'entrer au Carmel, mais ne crois pas que ce soit sans sacrifice de ma part, car je t'aime tant. » Et pour Thérèse, qui n'a alors que 9 ans, c'est un déchirement de voir partir sa seconde maman, comme elle l'appelle, sa deuxième mère. Puis, il y a Marie. Rien n'est plus éloquent que le récit qu'elle-même a fait de l'annonce de son départ. Je fis à papa cette grande confidence, il étouffa un sanglot et dit, « Ah, ah, mais sans toi, il n'a pu achever. Et moi, pour ne pas l'atteindre, l'attendrir, je répondis avec assurance, « Céline est assez grande pour me remplacer. Tu verras, papa, tu t'iras bien. » Alors ce pauvre petit père reprit, « Le bon Dieu ne pouvait me demander un plus grand sacrifice. Je croyais que tu ne me quitterais jamais. » Et c'est à cette époque qu'après bien des hésitations, tout soudain, Léonie obtient son admission chez les Clarisses. Alors elle part tout de suite pour les Clarisses pour regagner finalement sa maison 6 semaines après. Ça n'a pas marché, c'est trop sévère, c'est trop dur pour sa santé. Mais elle repart un peu plus tard vers les Visitandines, ou la Visitation, comme on dit, de Caen, la ville de Caen, en Normandie. Celui que sa fille aînée appelle le pourvoyeur du bon Dieu, et que vient d'ébranler une congestion cérébrale, n'a pas achevé son chemin de croix. Voilà qu'au soir de la Pentecôte 1887, c'est Thérèse, sa petite reine, qui lui révèle sa vocation. Ses larmes se mêlèrent aux miennes, mais il ne dit pas un mot pour m'en détourner. Ayant accepté, il montre la joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Cet extraordinaire d'héroïsme, il va vraiment appuyer la vocation de sa petite dernière qu'il aime tellement, et qui est toute jeune. Mais il faut aussi convaincre l'oncle Guérin, qui est un peu le tuteur des enfants Martin depuis la mort de leur mère. Lui qui, la Madame Martin qui est morte, c'était sa sœur. Alors c'est une opposition catégorique. Il considère que Thérèse est bien trop jeune pour cette vie de philosophe, comme il dit. Elle a 15 ans. L'intervention de Pauline, devenue sœur Agnès dans le monastère, est alertée par Thérèse. Et elle finit par emporter l'acceptation de l'oncle, l'oncle Guérin. Reste un dernier obstacle, c'est le supérieur du Carmel, un chanoine. Il est inflexible sur la règle de l'âge d'admission, qui est pourtant bien jeune à l'époque, on acceptait les fillettes de 16 ans. On peut dire qu'à 16 ans, beaucoup de jeunes filles se mariaient, ma grand-mère s'est mariée à 16 ans. Son refus est tranchant et définitif à ce chanoine. Alors, on ira voir l'évêque de Bayeux. Et s'il ne veut pas, dit Thérèse, j'irai demander au pape. Elle est décidée. Le 31 octobre, après avoir élevé ses cheveux en chignon pour paraître plus âgée, Thérèse se trouve avec son père devant Monseigneur Hugonnet. Et l'évêque l'écoute avec bonté, mais lorsqu'il lui conseille de s'en référer au jugement du chanoine, un flot de larmes lui répond évidemment, et l'intervention, pourtant si émouvante, de M. Martin, qui comprend sa fille, n'emporte pas l'acceptation de l'évêque. L'évêque dit 16 ans. « Il me semblait que mon avenir était brisé à jamais, » dira Thérèse. Plus j'approchais du terme et plus je voyais mes affaires s'embrouiller. Alors ils se rendent donc, M. Martin et Thérèse, 15 ans, à Rome. Et le 20 novembre 1887, en présence de l'abbé Reveroni, vicaire général du diocèse de Bayeux, représentant Mgr Hugonin, Thérèse, qui porte une mantille noire, c'est un petit voile noir en dentelle comme on en porte en Espagne, posa sur ses cheveux blonds. Elle s'agenouille devant le pape Léon XIII. « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. » Mais le vicaire général expose que la supplique est actuellement examinée par le supérieur du Carmel, le chanoine. Alors le pape dit, « Bien, mon enfant, faites ce que vos supérieurs vous diront. » Et elle répond, « Au très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Et il lui dit, « Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Et les gardes nobles, vous savez, les gardes avec, habillés en rouge, là, avec une grande queue de cheval sur leur casque, là, les gardes nobles poussent déjà Thérèse vers la porte. C'est une enfant en larmes que son père, Louis Martin, recueille à la sortie. Alors, voilà le résultat d'un si long voyage, et voilà ce qui reste de tant d'espoir. Thérèse est comme anéantie. Dès le retour à Lisieux, on remonte à l'assaut des positions adverses. C'est comme à la guerre, hein, et l'on fait appel à toutes les aides, à toutes les amitiés, surtout à toutes les prières. Tout est suspendu maintenant à la décision de Mgr Hugonin, lequel, si Dieu le veut, le 1er janvier 1888 arrive cette espèce de miracle, la réponse attendue, c'est oui, et c'est la victoire, la victoire. Alors donc Louis Martin, Céline et Léonie, accompagne Thérèse au Carmel, où toute la famille, dont les Guérin même, assistent à la messe, et y communient dans une émotion très intense. Puis, écrira Thérèse, « Je me mis à genoux devant mon incomparable Père, lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui-même à genoux et me bénit en pleurant. » Et la porte du cloître se referme sur elle, elle n'a que 15 ans. Le courage dont fait preuve alors M. Martin fait l'admiration de ses filles. Pourtant, il est bouleversé. Dieu seul, écrit-il, peut demander un pareil sacrifice. Mais mon cœur surabonde de joie. Au cri du sacrifice chrétien, vraiment fait par amour, il y a une surabondance de joie. Vous souffrez? Vous êtes malade? Aimez. Aimez Dieu et vous surabonderez de joie. Oui, c'est comme ça dans le christianisme. Au lieu de la révolte, c'est l'amour et la joie. Or, depuis quelque temps, sa santé décline à Louis Martin. C'est des coups répétés qui l'ont marqué. Céline écrit à Thérèse, Céline qui est toujours à la maison, « Ce pauvre père, il me semble maintenant si vieux, si usé, si tu voyais s'agenouiller tous les matins à la table de communion à l'église, il s'appuie... Il s'aide comme il peut, c'est à faire pleurer, j'en ai le cœur déchiré. » Puis il s'inquiète pour l'avenir, hein, il y a Léonie, rentrera peut-être à la visitation. Mais Céline, elle vient de refuser une demande en mariage, elle a 19 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir quand son vieux père n'y sera plus? Alors, Louis Martin va bientôt en avoir la réponse, que seules les sœurs de Céline connaissent déjà. Alors qu'elle envisageait de s'occuper de son père jusqu'à la mort de celui-ci, elle se sentait en même temps irrésistiblement attirée vers le cloître. Et un jour de juin 1888, donc 6 ans avant la mort de M. Martin, et 9 ans avant la mort de Thérèse, de l'enfant Jésus, mais un jour de juin 1888, d'un entretien avec son père sur un tableau qu'elle vient de peindre, elle passe insensiblement au ton de la confidence et avec beaucoup de douceur, elle lui dit son désir de rejoindre ses sœurs au Carmel. Mais il a déjà accepté. Alors il lui dit, viens, allons ensemble pour remercier le Seigneur. Voilà, quand on aime,
On remercie, on rend grâce, on ne se plaint pas. Il pense pas à offrir des souffrances, il pense à remercier. Que c'est beau. Que c'est beau un grand chrétien. Mais pourtant, ce dernier coup a durement frappé l'esprit de Louis Martin, qui est un vieillard. Et sa santé est ébranlée. Il souffre d'amnésie, d'hallucinations, des angoisses, des idées fixes. Les idées fixes succèdent, s'inquiètent de plus en plus son entourage. Et soudain, le 23 juin, quelques jours après la confidence de Céline, en 1888, il disparaît pendant 4 jours. L'on est sans nouvelles malgré toutes les recherches et enfin on le retrouve au Havre, d'où il expédie une carte pour demander de l'argent. C'est curieux, mon père a déjà fait ça, disparu comme ça pendant 4 jours, dans son vieil âge. Nous étions si inquiets. Au mois d'août, il connaît à nouveau des moments de confusion mentale, Louis Martin. Puis, en décembre, son état s'améliore, alors il s'attache au renoncement puis au dépouillement. Une dernière grande fête, une dernière grande joie pour ce père si plein d'affection et de tendresse. C'est la prise d'habit de Thérèse. Le 10 janvier 1889. Il connaît à ce moment une accalmie. Il a recouvré provisoirement toute sa raison. Sa petite Thérèse carmélite est radieuse. Mon père n'avait jamais été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde, dit-elle. À l'issue de la cérémonie, M. Louis Martin retrouve avec un tendre ravissement, oui, un ravissement plein de tendresse, sa petite reine, comme il l'appelle, vêtue de l'habit de carmélite. Ce fut son triomphe, écrira-t-elle, sa dernière fête ici-bas. Oui, la dernière, car la rechute survient peu de jours après. Une crise violente, des cauchemars délirants. Et craignant pour sa sécurité, le médecin et M. Guérin s'accordent pour l'internement à l'asile du Bon Sauveur à Caen. Léonie et Céline, pour rester près de lui, trouvent un logement voisin. Et voilà, nous allons voir tout à l'heure comment se termine la vie de ce saint, père de 5 religieuses, dont cette grande sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À travers tous ces problèmes, Louis Martin manifeste quand même un grand courage. Par une longue habitude de vie, Louis Martin, maintenant bien âgé, ne laisse échapper aucune plainte. Il ne pense qu'à faire du bien autour de lui, en distribuant aussitôt les petites douceurs qu'il reçoit. Il y a une sœur du Bon Sauveur, où il habite, qui a écrit « Monsieur Louis Martin inspire à tout le monde une profonde vénération. » Et bientôt survient la paralysie des membres inférieurs et la petite voiture, une petite voiture à 3 roues que l'on conserve, on peut la voir dans un film consacré récemment à Thérèse de l'Enfant Jésus. Il craint plus alors de mouvements dangereux pour sa sécurité. Monsieur Guérin ramène ce vieillard, Louis Martin, à Lisieux, où Céline et Léonie vont pouvoir s'en occuper complètement, aidés d'un ménage de domestiques. Un court passage au Carmel permet au malade de revoir ses filles religieuses. Il ne parle plus que difficilement, mais il arrive à exprimer ce simple adieu en disant « Au ciel ». Et en février 1893, l'année précède sa mort, dans une période de répit, il apprend avec joie l'élection de sœur Agnès, sa fille Pauline, à la charge de prieure, qu'elle va honorer pendant plus de 50 ans. Et c'est près d'Évreux, au château de la Muche, acquis par M. Guérin grâce à un héritage, que Louis Martin va pouvoir passer ses derniers jours. Mais seule Céline reste aux côtés de son père parce que Léonie, finalement, entre chez les visitandines, donc à la visitation, comme on dit. La mémoire s'en va chez M. Louis Martin. L'attention de ce vieillard disparaît. Seule la musique le touche encore. Il est immobile, les mains jointes, il regarde les arbres, le ciel. Il entend avec un véritable ravissement le chant du rossignol. C'est si beau. Et la fin approche, et le 24 juillet 1894, après une crise plus grave que les précédentes, il reçoit l'extrême onction et bientôt c'est l'agonie. Son regard était plein de vie, de reconnaissance et de tendresse, dira Céline, qui s'occupe de lui toujours. La flamme de l'intelligence l'illuminait. La flamme de l'intelligence l'illuminait. En un instant, j'ai retrouvé mon père bien-aimé, tel qu'il était 5 ans auparavant. Le 29 juillet 1894, au matin, un dimanche, Louis Martin entre dans la paix éternelle. Il ne meurt pas. Il entre dans la paix éternelle. Pour un chrétien de grande foi, la mort n'existe pas. Nous ne mourrons jamais si nous croyons vraiment. Nous entrons dans la joie. Sa mission achevée, Céline peut enfin répondre à l'appel divin, à cet appel d'entrer au cloître. Et après, le postulat, la prise d'habit, la profession, c'est la prise de voile, le 17 mars 1896, un an avant la mort de Thérèse. Elle est devenue sœur Geneviève de la Sainte Face. La Sainte Face de Jésus. Après ma mort, avait dit Thérèse, je ferai rentrer Léonie à la visitation et elle y persévérera. Après un nouvel échec, en 1897, elle y rentrera en effet définitivement à la visitation, cette Léonie. Le 30 juin 1899, en recevant l'habit, elle prendra le nom de sœur Françoise Thérèse, en souvenir de la sainte disparue. Sa mort, en 1941, couronnera 42 années de vie religieuse exemplaire à cette pauvre Léonie. 3 ans après son père, le 30 septembre 1897, à 24 ans, on le sait, c'est l'anniversaire demain, Thérèse achèvera, après le martyre d'une longue agonie que je vous raconterai demain, une vie toute de sainteté, de souffrance et d'amour. Thérèse, comme ses sœurs, qui toutes vont faire l'admiration de leur communauté, n'avait pas trouvé seule les moyens de la sainteté. Elle était née de parents chrétiens. Je répète, elle était née de parents chrétiens. C'est au sein de sa famille qu'elle a appris à connaître Jésus, à le prier, à l'aimer. C'est l'exemple de leurs parents, leur tendre vigilance qui les a formés au don de soi, qui leur a fait connaître l'amour de Dieu, pas sa justice, sa méchanceté, etc. Sans doute nous enseignait-on ça aussi, c'était l'époque. Mais on a tellement insisté sur l'amour qu'ils ont été, ces enfants-là, bouleversés par l'amour de Dieu. Elles ont reçu aussi l'enseignement de l'abandon total à cette douce volonté amoureuse de Dieu. Et à n'attendre rien que de sa grâce. Et c'est à ce titre que l'Église, le 26 mars 1994, a proclamé vénérable Louis et Zélie Martin. Sainte Thérèse qui disait, « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Ô Dieu, notre Père, nous vous rendons grâce pour Louis et Zélie Martin, dont le couple fut fidèlement uni, donnant le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire, par l'exercice du devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques. Dans l'éducation d'une famille nombreuse, à travers les épreuves, les deuils et la souffrance, ils ont manifesté généreusement leur confiance en vous, leur soumission à votre volonté. Le Père et la Mère de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont l'Église a reconnu les vertus héroïques, sont déjà un exemple pour les familles d'aujourd'hui. Alors daignez, Seigneur, nous accorder à nous tous qui vous prions aujourd'hui la grâce que nous sollicitons par leur intercession et faire connaître pleinement vos desseins à leur égard en obtenant leur béatification. Ceux qui ont désiré te voir et te contempler, toi le Père invisible, ont pu te rencontrer dans ton Fils incarné, ton image parfaite. Ils ont pu découvrir dans son visage d'homme ton visage ineffable et remplir leur regard de la révélation de tes secrets divins. Puis ils ont rencontré Jésus en profondeur, puis ils ont pénétré parfois sans le savoir, dans l'immense mystère de ta paternité. Ne me permets jamais d'arrêter mon regard à la seule surface et de lire l'Évangile avec trop grande hâte, sans souci de te voir. Et qu'en rencontrant le Christ avec toute mon âme, je puisse te rejoindre, ô Père, et saisir avec toi, avec joie, ce qui nous a montré des merveilles de Dieu. Thérèse a montré dans un sens aussi les merveilles de son Père.